Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h.
Que le président de la République, que les principaux ministres puissent être surveillés si cela est confirmé, cela pose naturellement un problème de sécurité nationale majeur.
Les données de nos dirigeants sont-elles bien protégées? Le téléphone d'Emmanuel Macron fait partie des cibles potentielles du logiciel espion Pegasus. Dans ce journal, on essaie de comprendre comment une entreprise peut parvenir à pirater le téléphone du chef de l'État. Bernard Barbier, ancien patron de la direction technique de la DGSE, nous livrera notamment son éclairage. À la une de l'actualité également, le pass sanitaire qui fait son entrée dans notre quotidien et les Français qui continuent d'aller se faire vacciner. Et puis c'est un peu notre Star Wars à nous après la série, le phénomène Kaamelott débarque au cinéma. Il y avait du monde hier pour les avant-premières. À suivre, l'éclairage éco de Maud Descamps. Quel impact aura ce pass sanitaire sur la croissance? Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Millot. Et puis un nouveau portrait olympique, le destin en or de Tony Estanguet, raconté par Corinne Boulot. Très bon réveil. Merci d'être à l'écoute. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
La sécurité de l'État est-elle assurée quand ses plus hauts dirigeants sont espionnés? C'est la question qui se pose ce matin sur Europe 1.
Oui, le monde politique secoué en France. Emmanuel Macron aurait donc été surveillé par le Maroc en 2019 via le fameux logiciel Pegasus, tout comme 14 ministres. Cette affaire pose la question de la faiblesse des dispositifs de protection. On va se pencher avec Louis Dragnel sur la situation particulière du chef de l'État dans un instant. Mais avant cela, on écoute la réaction du député Les Républicains, Éric Ciotti.
Si cela est confirmé, cela pose naturellement un problème de sécurité nationale majeur. Que le président de la République, que les principaux ministres puissent être surveillés sans que l'on s'en aperçoive, c'est assez inquiétant et ça nous invite aussi à revisiter, à rehausser nos dispositifs de protection. Donc ça veut dire aujourd'hui que nos dispositifs de protection, de sécurité des plus hauts responsables de l'État sont défaillants et cela est particulièrement préoccupant et cela doit aussi amener à mieux nous protéger.
Le député Éric Ciotti au micro de Claudia Bertram.
Et c'est vrai que cela interroge. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1, bonjour.
Bonjour Léanique, bonjour à tous.
Le téléphone d'un président de la République espionné, si c'est avéré, c'est pour le moins inquiétant. Temps. Les conseillers du président respectent assez peu, on le sait, les consignes de prudence qui sont émises pourtant par les services de renseignement. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de négligence?
En fait, ça dépend et c'est toujours une question très compliquée, surtout avec des ministres, un président et leurs conseillers, qui à l'exception des fonctionnaires de l'intérieur ou des militaires de la défense, viennent souvent d'univers pas du tout sensibilisés au risque de l'espionnage ou encore du tamponnage par une puissance étrangère. On se dit toujours que personne n'oserait s'en prendre au président et aussi quel pays pourrait s'intéresser à mes conversations, explique ainsi un collaborateur d'Emmanuel Macron. Je peux même vous dire qu'au début du quinquennat, les jeunes conseillers du chef de l'État ne voulaient pas entendre parler des téléphones portables cryptés Théorème. Selon eux, impossible de joindre quelqu'un qui n'a pas le même téléphone, pas pratique du tout, peu maniable et fonctionnant mal. Autre système qui n'a pas vraiment convaincu tous les conseillers, les lignes fixes Osiris ou encore l'application de l'Elysée permettant de crypter l'ensemble des conversations et des messages. Un système efficace, mais le problème c'est que la sécurité s'oppose souvent à la maniabilité, puisque les téléphones de l'Elysée ne permettent pas par exemple de télécharger WhatsApp ou encore Telegram pour des raisons évidentes de sécurité.
Ah Louis, le confinement a par ailleurs allégé les protocoles de sécurité.
Bien oui, parce qu'avec le télétravail, en fait, les protocoles stricts pour la transmission de documents classifiés ont été assouplis dans les faits et beaucoup de hauts fonctionnaires s'échangeaient des données très sensibles via Telegram par exemple. Pour terminer, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron s'est montré de plus en plus sensible à ces questions et désormais quand il s'agit d'évoquer les sujets de la défense nationale, il ne prend aucun risque, quitte à ce que ce soit beaucoup plus lourd et beaucoup plus contraignant.
Merci à Louis Dragnel pour ces précisions.
Et justement, pour mieux comprendre les dessous de ce qui est en train de se jouer, accueillons à présent Bernard Barbier, ancien patron de la direction technique de la DGSE. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui.
Vous connaissez très bien le fonctionnement de ces logiciels de traitement massif de données, puisque vous avez créé les premières équipes dédiées à ce sujet au sein du renseignement extérieur français. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'une entreprise réussit à aller aspirer les données de 50 000 téléphones à la fois?
Là, dans le cas de cette affaire, en fait, c'est L'outil utilisé qui s'appelle Pegasus a été développé par une société israélienne très bien connue qui s'appelle NSO. On est là, on est dans de l'intrusion informatique, hein, c'est du cyberespionnage. On n'est pas dans dans un système d'écoute passif. Donc ce logiciel utilise une technologie extrêmement sophistiquée, hein, puisque ce qu'on appelle des zéro clic zéro death, c'est-à-dire que ce sont des failles dans les systèmes d'exploitation des téléphones, hein, que ça soit Android ou Apple. Et ces failles permettent finalement d'injecter des logiciels de façon passive dans le téléphone, hein. Donc il n'y a pas besoin de cliquer par exemple sur un email infecté, hein, ce qu'on appelle du phishing. Là en fait c'est totalement passif et c'est vraiment un niveau de sophistication extrêmement élevé.
Alors dans le cas précis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise comme NSO qui édite, hein, Pegasus, va payer des hackers pour qu'ils travaillent à trouver des failles, hein, en fait, dans les logiciels des téléphones standards, Apple, Samsung et autres, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Oui, c'est en fait NSO donc achète ce qu'on appelle des zero day. Hein, donc un zero day, c'est une faille non connue par l'éditeur de logiciel, hein, donc qui n'est pas corrigée, mais qui peut être exploitée par des hackers pour faire ce qu'on appelle une exploitation, hein, qui peut être exploitée pour faire un outil d'espionnage.
Et comment et donc, Oui, allez-y, pardon.
Oui, en fait, faut savoir que il y a un marché international. Hein. D'ailleurs, il y a une société qui a pignon sur rue qui s'appelle Zerodium, hein, qui a un site web et qui achète ces failles. Et les failles les plus chères sont les failles concernant le système d'exploitation Apple iOS. Mmh. C'est plus de l'ordre de 2 millions de dollars.
Voilà, ça se vend plusieurs millions. Comment se fait l'analyse ensuite par les états clients des données récupérées par ce logiciel, Bernard Barbier? Parce que c'est des centaines de milliers de conversations.
Alors dans le cas de Pegasus, en fait, c'est un système très ciblé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des écoutes massives, même si le chiffre est important, mais je pense que ça a été exploité de façon extrêmement ciblée en fonction des cibles, hein, qui peuvent être des journalistes, des dissidents ou même des hommes politiques. On n'est pas du tout dans un système massif d'interception qui nécessite des outils très évolués comme par exemple l'utilisation de Palantir. Là, on est dans de l'espionnage très ciblé. Là.
Ouais, justement, Bernard Barbier, on dit si le téléphone du président, on dit bien si, hein, et de son premier ministre, ont été infectés et les données aspirées, est-ce qu'il y a aujourd'hui des opérations françaises, des agents, des projets qui sont potentiellement menacés?
Alors aussi, au niveau des services, savoir que donc les opérations sont extrêmement sensibles et très secrètes, donc on utilise des outils de protection, hein, donc par exemple vous avez cité le téléphone Théorème développé par Thales qui permet d'échanger des informations de type classifié. Donc au niveau des services, les services sont très conscients des menaces et se protègent énormément. Je pense que là, le problème que nous avons, c'est plutôt un problème au niveau du grand public, en fait.
Merci Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, le renseignement extérieur. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous livrer cet éclairage très intéressant en direct ce matin sur Europe 1.
Il est 7h08 et l'autre grand titre de l'actualité ce matin, Lénaïc Monnier, c'est bien sûr l'entrée en vigueur du pass sanitaire.
Pour aller au cinéma, au théâtre, au musée, un QR code validé et vous pouvez entrer. Plus de masques obligatoires à l'intérieur dans ces cas-là. Les députés par ailleurs ont voté hier en faveur d'un report fin septembre pour le pass sanitaire des 12-17 ans.
Un pass sanitaire qui a pour but d'encourager la vaccination, objectif numéro 1 du gouvernement.
Oui, parce que le nombre de contaminations explose en France. 18 000 nouveaux cas détectés en 24 heures. Ce que l'on constate en tout cas, c'est que les Français sont plutôt réceptifs au message. Une enquête Ipsos démontre que 63% des Français assurent qu'ils seront vaccinés au moment de partir et d'autres passent le cap sur leur lieu de vacances. Direction les Pyrénées-Orientales, le département le plus touché par l'épidémie actuellement, avec ce reportage d'Henri de la Guérie.
Devant le gymnase de Saint-Cyprien, plusieurs dizaines de personnes font la queue pour se faire vacciner. Tongs, lunettes de soleil et maillot de bain, beaucoup sont en vacances. Anne-Lise, originaire de Marseille, séjourne en famille dans un camping du littoral. Elle s'est échappée de la plage pour accompagner sa fille de 15 ans.
Le fait qu'il y ait de plus en plus de cas ici, on s'est dit si on peut accélérer un peu les choses. On avait prévu de la faire vacciner fin août pour la rentrée. Et au final, on s'est dit c'est pas plus mal si on arrive à le faire vacciner là en début de vacances.
À Perpignan aussi, c'est la ruée. La mise en place du pass sanitaire a accéléré la vaccination, l'envolée des contaminations aussi. Brigitte Vadi, infirmière, coordonne le vaccinodrome.
Dans la région, les gens voient que ça flambe. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont porteurs du virus, donc les gens viennent. Beaucoup de gens qui, encore il y a un mois, juraient qu'ils ne se feraient pas vacciner et qui viennent aujourd'hui.
Et il faut parfois faire preuve de pédagogie. Beaucoup viennent à reculons. D'autres, en revanche, sont prêtes à tout pour se faire vacciner. Laetitia vit à Barcelone. Elle avait du mal à trouver un créneau en Espagne. Elle a donc fait le déplacement dans la journée.
Ouais, 4 heures de route dans la journée avec un bébé de 5 mois. On veut vraiment être vacciné le plus vite possible.
Et pour toucher le plus de monde possible, des centres de vaccination s'installent au plus près des vacanciers. À Collioure, à côté de la place du marché, tout le monde pourra se faire vacciner aujourd'hui. Perpignan, Henri de la Guérie, Europe 1.
Et 40 millions de premières doses auront normalement été injectées d'ici la fin du mois de juillet, avec un mois d'avance sur le calendrier. Emmanuel Macron pilote par ailleurs ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire et Jean Castex en dévoilera une partie de la teneur au 13h de TF1.
Il est 7h11, il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Steve Maya Canisso mourait le soir de la fête de la musique à
Nantes. Le jeune homme s'était noyé après avoir sauté dans la Loire, après une charge controversée de la police. Le commissaire en charge du dispositif a été mis en examen hier pour homicide involontaire. Marion Dubreuil, c'est la première à ce jour.
Exactement, c'est ce commissaire qui était aux commandes de l'opération d'évacuation du quai Wilson où se trouvait Steve Maya Canisso. Or, l'expertise du téléphone du jeune homme prouve qu'il est tombé dans la Loire dans le temps de l'intervention des policiers. L'avocate de la famille, Cécile de Oliveira, parle d'un grand soulagement.
Pour la famille, c'est aussi le sentiment que la justice a cette indépendance pour pouvoir instruire sur un dossier de cette nature. C'est évidemment une forme de petite réparation d'un sentiment d'injustice très fort. En juillet 2019, quand on retrouve le corps de Steve Maya Canisso dans la Loire, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui fait des déclarations pour expliquer qu'il n'y a pas de lien entre l'intervention policière et la mort de Steve Maya Canisso. Pour la famille de Steve Maya Canisso, l'essentiel est que la responsabilité de la police soit retenue.
Un autre commissaire, le directeur adjoint de la sécurité publique de Loire-Atlantique, a été placé sous le statut de témoin assisté. Et le juge d'instruction rennais a également convoqué la maire de Nantes, son adjoint à la sécurité, l'ancien préfet et son directeur de cabinet. Les auditions devraient se poursuivre jusqu'à la rentrée. Et
les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. En Chine, 12 personnes sont mortes dans l'inondation du métro de la ville de Zhengzhou. Des pluies torrentielles se sont abattues sur une partie du pays. Le président Xi Jinping a évoqué une situation extrêmement grave.
Et on rejoint notre correspondant en Chine, Sébastien Lebelzig, dans le journal de 7h30. 10 minutes dans l'espace, 10 minutes d'extase pour Jeff Bezos.
Le milliardaire a réalisé son rêve d'enfant avec ce vol d'une dizaine de minutes, dont 3 en apesanteur. Jeff Bezos parti de rien avant de devenir milliardaire grâce au succès d'Amazon. D'ailleurs, il a eu un mot pour les employés de la multinationale et les clients qui sont aussi un peu ses employés.
Je veux remercier chaque employé d'Amazon et chaque client d'Amazon parce que c'est vous qui avez payé pour tout ça. Donc, sérieusement, à tous les clients d'Amazon, à tous les employés, merci du plus profond de mon cœur. J'apprécie.
Il y en a beaucoup des clients d'Amazon. Oui. Il y aura peut-être d'autres vols spatiaux pour Jeff Bezos.
Il va falloir une ristourne maintenant, puisque pour les prochains billets dans l'espace, tout ça, c'est un petit peu cher, plusieurs centaines de milliers d'euros.
Exactement.
On termine avec du cinéma, Lénaïque Monnier, et c'est un peu notre Star Wars à nous. Kaamelott est à l'affiche dans les salles obscures aujourd'hui.
En ce qui concerne l'attente, en tout cas, le film a été reporté maintes fois après la fermeture des cinémas. Eh bien, certains fans n'ont pas eu la patience d'attendre la sortie aujourd'hui, mercredi. Ils étaient déjà 200 000 hier à assister aux avant-premières. Le reportage de Caroline Baudry.
Encore un instant avant d'entrer dans la salle obscure, mais Flo, ticket acheté en avance dans la main, n'est plus à quelques minutes près. Il attend la suite de Kaamelott depuis 2009.
Je suis fan de la série qui s'est déjà arrêtée il y a 10 ans. J'attends de savoir la suite de l'histoire. C'est long, on trouve d'autres occupations entre temps.
Oui, puisqu'il me parle qu'on réplique de Kaamelott à la maison.
Dans la salle bondée, noir, générique et retour de l'univers Kaamelott.
Ouais.
Ses costumes d'époque, son humour absurde et ses acteurs, des historiques de la série. Et puis Alain Chabat, Christian Clavier, Audrey Fleurot. Et 2 heures plus tard à la sortie, autant d'avis que de spectateurs.
Les images sont très belles, c'est vraiment une comédie d'aventure.
Un peu déçu, forcément j'en entendais beaucoup et les vannes, un peu, c'est un peu du réchauffé quoi, malheureusement.
On peut tout à fait voir le film sans avoir vu la série.
C'est un nouveau format et c'est à la fois enthousiasmant et dépaysant. J'ai moins ri que ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai été plus attendri que ce à quoi je m'attendais aussi. Par le fait de retrouver ces personnages et la musique, le seul reproche que je pourrais faire au film, c'est que j'ai envie d'en voir plus.
Tous confient avoir déjà en tête la sortie du deuxième volet de cette trilogie annoncée.
Voilà, on va laisser passer le premier déjà, oui, en réservant sans doute les places un petit peu à l'avance et en n'oubliant pas son pass sanitaire puisque ça commence aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui, merci, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Il est 7h15.